part aujourd'hui. Je risque de tout. Il risque d'y avoir des blancs dans mes phrases. Il y a le risque que je pleure devant vous. Il y a le risque que je ne me contrôle pas trop. Accueillez ça, s'il vous plaît, avec bienveillance. Pourquoi je vous dis ça ? Je ne vais pas dire que c'est un message. D'ailleurs, je cherchais un titre par rapport à ça. On veut essayer de mettre des titres partout. Et ce matin, il y avait tellement une connexion avec l'Esprit de Dieu dans la préparation de la louange, quand on priait ensemble juste avant de démarrer. Pourtant, Karel et moi, on ne s'était pas concertés. Et franchement, c'était des prières vraiment inspirées. Et je dis, Seigneur, merci, merci. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que Dieu est en train de crier vers toi. Imagine un instant, Dieu crier vers toi. Là, on sent un petit peu des plafonds, des limites qu'on se met dans notre tête, dans notre intelligence, dans notre cœur. Et c'est normal, on va voir pourquoi. Cette semaine, j'ai vraiment ressenti l'appel de Dieu, son cri pour ma vie. Ce n'est pas pour dire que je suis bien placé, je suis meilleur, Dieu fait quelque chose de moi. Non, ce qu'il est en train de faire dans ma vie, c'est parce qu'il veut faire exactement la même chose pour chacun d'entre nous. Je me suis réveillé mardi dans le contexte. J'étais au fond du fond, en dépression, et je pèse mes mots. J'allais très mal, émotionnellement. Bon, je suis artiste, tous les artistes ont des problèmes émotionnels, ou une sensibilité émotionnelle, on va dire. Mais j'avais le contexte de ma vie qui me poussait au plus bas, qui m'écrasait. Et peu avant ça, je sentais qu'il y avait quelque chose de Dieu pour moi en disant, mais si tu continues comme ça, tu vas descendre, tu vas continuer à descendre et ça sera fini. Mais si tu oses répondre à mon cri, je te relèverai. Il ne me l'a pas dit ça mot pour mot, mais moi c'est ce que je comprends. Alors que je me réveillais ce matin-là, c'était comme d'habitude, j'avais pas d'énergie, j'avais pas de volonté de faire quoi que ce soit. J'ai juste commencé à prier. Et oui, je me suis forcé un petit peu. J'ai ouvert la bouche. J'ai répandu mon cœur à Dieu. Je l'ai loué. Je dis, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu restes fidèle. Et pendant que je priais, j'essayais de me concentrer vraiment sur les paroles que je disais pour pas que ce soit une habitude, un schéma. Et je commençais à déclarer les choses de Dieu dans ma vie. Tu es mon protecteur, tu es mon Dieu, tu es celui qui change tout. Tu as toutes choses entre tes mains. Ce n'est pas à côté, ce n'est pas dans les mains de quelqu'un, ce n'est pas dans les mains des institutions, ce n'est pas dans les mains du gouvernement, de l'administration. Non, c'est dans les mains de Dieu. Et je me rendais compte combien je ne le connaissais pas. Je l'ai suivi depuis 1997, je connais le Seigneur. Ma mère m'a ramené dans l'église, je ne connaissais rien de Dieu. Je voyais les gens tomber par terre, j'entendais les personnes crier parce qu'ils étaient délivrés, ils étaient touchés par Dieu. Moi, j'avais peur de ça. Je ne voulais pas de ça. On ne m'a rien expliqué. On m'a expliqué juste avec leurs mots. Mais ma mère, elle était tellement touchée. Elle voulait ramener ses enfants avec elle. Et là, ce matin-là, pendant que je priais, je sentais qu'il y avait un feu dans mon cœur. Et j'avais qu'une envie, c'était de continuer de prier, 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 de proclamer surtout. Et on dit bien souvent de mettre, on a eu le message de Ulrich dernièrement, de dire ne mets pas Dieu seulement en premier dans ta vie, mets-le au centre de tout. Donc moi perso, j'avais ce schéma, dès que je me réveille, Première parole à Dieu, première pensée vers Dieu. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire et de temps en temps, si je peux mettre du temps à part, je le mets. Mais là, c'est je prépare mon café et je le prépare avec toi, Seigneur. Je continue de prier. Je te cherche même dans ce que je fais. Je regardais dehors à la fenêtre, je voyais les maisons autour de moi. J'avais qu'une envie, c'était de prier pour les gens de mon quartier. Donc j'ai proclamé des choses. J'ai des problèmes avec mes voisins parce qu'ils font énormément de bruit. Et moi, le bruit, ça suffit quoi. Et tout le temps que je les entendais avant, c'était « Seigneur, j'en ai assez, emmène-les loin de moi ou emmène-moi ailleurs. » Mais ce matin, j'entendais le fils de mon voisin, bon, si un jour il entend ce témoignage, ce que je raconte, bah, merci Seigneur, il était en train de se disputer au téléphone et je l'entendais comme s'il était là chez moi. Alors là, habituellement, je dis « Seigneur, je ne veux pas de ça, j'en ai marre. » Mais là, j'avais envie de prier pour lui. J'ai proclamé des choses sur sa vie, des choses sur son père. C'était comme ça pendant 10 à 15 minutes. Et ce n'était pas forcé, ce n'était pas quelque chose de « Oh, il faut que… » Non, c'est Dieu qui met en toi, qui, quand il déverse, ça déborde, tu n'as qu'une envie. Waouh, c'est de te répandre. J'avais entendu également… souvent parler, enfin, ça me trottait dans la tête depuis quelque temps de me rapprocher d'un centre hospitalier psychiatrique qui est dans mon quartier. J'habite à Saint-James-sur-Loire et j'ai su qu'à Angers, quand tu dis que tu viens de Saint-James, on pense tout de suite à la maison, à l'hôpital psychiatrique. Du coup, moi, je viens pas de là, mais je me suis rapproché ce matin-là. Je dis, j'y vais. J'étais en face de ce centre. J'ai commencé à prier, je proclamais. J'ai crié dans la voiture, j'ai poussé des cris. Maintenant, ça me parle, ces cris-là. J'en reviendrai aussi là-dessus. J'ai repensé à un couple de personnes âgées chez qui je travaillais à Montpellier et avec qui j'ai gardé contact. Ce couple-là, sa femme est en train de mourir. Et j'ai prié pour eux. C'était intense. J'avais qu'une envie après, c'était de venir à l'église, de prendre ma guitare, de louer Dieu, de prier en langue, de chanter en langue. Et pendant que je venais en route, j'avais qu'un désir, c'est si je rencontrais des gens, ben c'était de parler ouvertement de Dieu. Et pareil, c'était pas « il faut que… » Bien longtemps, j'ai entendu parler de l'évangélisation, il faut aller évangéliser, il faut aller dans les rues, il faut aller parler dans son travail, etc. Mais il y avait de la retenue. Et pourquoi il y a de la retenue? Je vais y revenir aussi, ne vous inquiétez pas. Alors quand je venais ici, j'avais très envie de parler. J'ai pris ma guitare, j'avais qu'une envie aussi, c'était de laisser la porte ouverte là, à l'entrée. Ceux qui m'entendent, qui veulent rentrer, ben rentre. Donc j'ai commencé à louer Dieu. Et puis on a discuté un petit peu avec Jean-Didier qui venait aussi par là. On a pu discuter de la soif de Dieu qu'on avait, de voir les choses, de vivre des choses avec Dieu, de voir son Église resplendir, vivre. Un autre frère qui est venu, il devait se voir pour prier ensemble. Moi, je faisais mon truc ici. Donc, ils se sont vus, ils ont discuté ensemble. Ils attendaient une troisième personne pour prier avec eux. Cette personne n'est pas venue, moi je louais pendant 20 minutes. Ils m'ont invité à venir avec eux. On a discuté aussi et c'était pareil. Ça se rejoignait. Ils étaient en train de discuter entre eux de savoir ben, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Et toi Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu as à dire? Eh bien, sachez que si on me demande depuis quand je connais Dieu, je vais vous dire depuis mardi. Et je n'ai pas honte de vous le dire. Je n'ai vraiment pas honte. Je n'ai pas honte parce que Dieu, il a été patient envers moi. Dieu, il a veillé sur moi. Il m'a protégé. Il a pris son temps. Ça aurait pu aller beaucoup plus vite, franchement. Alors j'ai, en partageant avec eux, j'ai réalisé que ben, ma vie, elle était bancale. Et il y a une étape à franchir avec lui. Et ce feu-là qu'il avait mis dans mon cœur ce matin-là, j'avais goûté une petite partie de ce que Paul il a vécu quand il dit que ben, lui, la seule chose qu'il veut, c'est connaître Dieu, connaître Christ. Le reste, c'est éphémère. Il voyait toutes les choses à lesquelles les personnes peuvent s'attacher, il les voyait ça comme de la boue. Et même moi, ce jour-là, j'avais ressenti que je pouvais tout perdre. Ça me faisait rien. J'étais prêt à ça. J'étais prêt à perdre mon fils que j'aime. J'étais prêt à perdre mon appart. J'étais prêt à ne pas avoir de travail. Peu importe la condition qui peut m'attendre, je suis prêt à ça. Pourquoi ? Parce que ce que Dieu veut apporter dans ton cœur fait pâlir le reste. Plus d'inquiétude, plus de peur, plus de crainte, plus de stress, plus d'appréhension. Et je me rends compte qu'il y a eu deux appels comme ça dans ma vie. Et franchement, la manière dont Dieu parle, c'est d'une excellence, mais chose que j'ai réalisée encore hier. J'étais au fond du trou en 2010. Je suis passé plein de fois au fond du trou. Hein. Et là, j'étais poussé, pareil, à prendre une décision devant Dieu. Je travaillais, mais j'allais mal. Parce que je menais ma vie n'importe comment. Et quand tu essayes de suivre Dieu et que tu continues quand même de vivre avec ce que tu as, des choses du passé, des blessures et toute autre chose, bah, à un moment donné, bam, ça coince. Tu ne peux plus continuer comme ça. Et tu le sais, tu le sens. Alors j'ai tout plaqué, j'ai dit « Seigneur, je vais démissionner, mais je veux quelque chose qui soit centré sur toi dans ma vie. » Et en deux semaines plus tard, voire trois, j'étais au Canada, à Jeunesse en mission. Dieu a conduit les choses, je vais faire court. Il a conduit les choses pour que j'atterrisse là-bas. Et là-bas, juste après manger, quand on était avec, bah, c'est plein d'étudiants, si vous ne connaissez pas Jeunesse en mission, c'est vraiment un temps qu'on met à part pour chercher Dieu. Chaque semaine, vous avez des orateurs qui viennent parler du cœur du Père, de la délivrance, de la louange. Et on chemine avec Dieu pour essayer de connaître Dieu. Le but, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Même ça, ça résonne encore dans mon cœur. Avant, c'était que théorique, intellectuel, connaître Dieu, faire connaître, ok. Et là, Dieu me disait, cherche-moi. À chaque fois qu'il y avait des personnes qui priaient pour moi, elles avaient des paroles, cherche-moi. À chaque fois que j'avais un temps libre, j'allais m'isoler dans une petite pièce avec le piano et là, je le louais, je criais à lui. Fin de Jeunesse en mission, arrivé sur Grenoble parce que j'avais perdu mon billet d'avion pour retourner à l'île de la Réunion. Oui, je viens de là-bas et c'est là où Dieu réside pendant l'hiver. Parce qu'il fait bon. Et là, c'était la descente encore. La descente. J'ai eu une porte ouverte sur Montpellier ensuite, où j'ai vécu 6 ans. Pareil, c'était essayer de suivre Dieu, essayer de lui plaire. J'avais un cœur sincère, mais je ne comprenais pas pourquoi je ne parvenais pas à vivre vraiment, en fait. Jusqu'à il y a quelques jours, je me disais, mais Seigneur, je me sens mort, je me sens vide, je me sens aride, j'ai l'impression que je ne suis pas là. Et on me dit de venir à toi, on me dit de prier, on me dit que tu as envie de passer du temps avec moi, que c'est un désir ardent que Jésus a de vouloir passer du temps avec moi. Et moi je suis là, mais j'ai l'impression qu'il ne se passe rien, Seigneur, ça reste pareil. Et là, deuxième appel, il y a quelques jours, cherche-moi, cherche-moi. Alors pourquoi ça ne fonctionnait pas? Pourquoi j'arrivais pas à vivre pleinement pour lui? Vous l'avez entendu plein de fois. Adam et Ève dans le jardin de Dieu. Dieu les a créés pour être en communion avec eux, pour marcher à côté d'eux. Et je suis encore loin du compte. Et la Bible ne nous dit pas tout. On n'imagine pas les profondeurs de la relation avec Dieu, comment c'était entre eux. La première chose, et Satan, qu'est-ce qu'il faisait là? Lui, accessible comme ça, Dieu l'aurait pu déjà mettre bien loin de côté, l'enfermer, isoler. Non, là, c'est ma création, ce sont mes créatures, je les veux uniquement que pour moi. Mais si Dieu a laissé l'ennemi, c'est parce que Dieu, il voulait une relation d'amour. C'est pas des robots, c'est pas quelqu'un qui est conditionné juste à suivre et aimer Dieu uniquement. Ce que Satan il a fait, il a attaqué la relation d'Adam et Ève avec Dieu. Il a brisé cela. Ce qu'il continue de faire dans nos vies. Si on regarde un peu comment on a construit notre vie avec Dieu, je vais vous parler de moi, parce que je ne veux pas que vous vous sentiez accusé ou quoi que ce soit. La manière dont j'ai construit ma vie avec Dieu, c'est ok, Jésus, il est Seigneur, il a payé de sa vie pour me racheter, il m'accepte comme je suis, il m'invite à accepter sa vie, il m'invite à accepter son sacrifice, il m'invite à accepter son amour pour moi. Ok, d'accord. Et du coup, les jours passent, j'essaye de saisir, j'essaye de trouver, j'essaye. Et là où ça bloquait et que Dieu met en lumière, c'est que j'ai construit Jésus sur une base qui était déjà présente, une base qui n'était pas bonne. Et on met Jésus comme sur base pour dire, allez, on va construire dessous. Mais si on met... Je vous disais tout à l'heure, Dieu parle des fois et on ne capte pas tout de suite que c'est lui qui parle. Et en fin de compte, ça a tout son sens. Récemment, je parlais avec un ami, on parlait des endroits qui sont abandonnés, des sites où on pourrait construire, mais il ne se passe rien. Et on se dit, mais pourquoi? C'est bizarre. Mais en fin de compte, c'est que le sol, il y a plein de cochonneries dedans. On ne peut rien faire. Si on creuse, qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces produits? Tout ce qu'il y a de toxique. Donc c'est laissé à l'abandon. Bah, c'est pareil dans ma vie. Il y a eu plein de choses, non pas que j'ai cherché de moi-même, mais c'est des choses qui étaient là et que je ne peux pas construire une vie avec Dieu là-dessus. Même si je me dis que voilà, c'est Jésus et je construis ma vie sur Jésus. Là où Dieu veut pas mettre son doigt, parce que souvent on dit, et j'aime pas trop cette expression-là, je la respecte, mais Dieu parfois il met son doigt là où ça fait mal. Et perso, je suis pas d'accord. Dieu veut te guérir dans son amour, dans sa tendresse. Il n'est pas avec un bistouri pour extraire les balles. Non, il sait comment il le fait. Nous, la seule chose qui nous fait mal, c'est de nous rendre à l'évidence des choses qu'il met en lumière. Ça nous fait mal parce que ça nous ramène à une histoire, ça nous ramène à quelque chose du passé. Là où je veux en venir, et je vais peut-être juste prendre un exemple. Ça peut être un exemple minime pour vous. Lorsque j'étais enfant, ma mère, elle a quitté mon père de la métropole, elle est retournée à l'île de la Réunion. C'était un échec pour la famille. Eh bien, on a grandi comme on pouvait. La vie, elle était difficile. C'était strict. On avait des corvées. Nos autres cousins étaient préférés à nous. Mes frères et moi, on devait faire des corvées. C'était un peu du chacun pour soi. Même si on jouait ensemble, on n'avait pas vraiment de lien. Parce qu'on ne savait pas comment se construire. On n'a pas le mode d'emploi. Donc, on vit avec le contexte. On vit avec les circonstances. On vit avec les blessures. Et tout ça, ça nous construit. J'avais pas ma place avec mes frères, parce que j'étais le dernier. Ils étaient entre eux, dans la chambre, en train de s'amuser ou discuter, toi, là-bas. Moi, ce que je me suis dit, c'est quoi ? Je suis rien, ils veulent pas de moi. Il n'y a aucun intérêt, parce que ce sont eux les plus grands, c'est eux qui découvrent tout. Toi, tu es là, bah, tu suis et... T'as rien à leur faire connaître. Donc voilà, j'ai grandi avec ça. Et je disais, Seigneur, personne ne m'entend. Et ça m'a suivi. À l'église à Montpellier, avec les amis que je fréquentais, je leur parlais pendant qu'on mangeait, pendant qu'on discutait ensemble. Boum, ma parole, elle plongeait. Là encore, c'est hop. Bah ouais, ça se confirme. J'ai pas ma place. Personne ne veut m'entendre. Personne ne s'intéresse à moi. Et ça devient une réalité parce que je me suis construit là-dessus. Et ce qui nous empêche de vivre une réelle communion avec Dieu, une réelle relation avec Dieu, c'est parce que l'ennemi, il a toujours emprise dans notre vie. On a des brèches. On a des constructions. Et il nous tient. Hop là! Je pense ne pas être le premier à me dire, Seigneur, tant d'années, j'ai essayé de te suivre. Tant d'années, j'essaye de lire ta parole. Tant d'années, j'essaye de faire ce que tu fais. Mais je ne vais pas plus loin. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il l'a toujours emprise. Il n'a plus rien à faire. Des fois, on dit, là, ça suffit, l'ennemi, il n'a plus aucun accès à ma vie. Je refuse que l'ennemi ait un accès dans ma vie. C'est fini parce que je vis pour Jésus-Christ. Hop là! Et puis après, 2 semaines plus tard, bim! Oh, j'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi je m'entends pas avec un tel? Pourquoi j'ai encore peur? Pourquoi ça se passe mal? Parce que l'ennemi, il a encore des choses dans ta vie. Et c'est là que Dieu veut intervenir, parce qu'il veut te guérir. Bien des fois, on se dit, le passé, il ne faut pas retourner dedans, parce que si, parce que ça, ok. Mais malheureusement, il y a des choses où les racines se trouvent là-bas, et qu'on a besoin de voir, et qu'on a besoin de guérir. Et c'est ce que Dieu désire ardemment. Pour chacun d'entre nous, vivre une communion intense avec lui. Le seul fait que tu te dises « Non, c'est pas pour moi, oui, mais je sais, je suis persuadé que je vais pas y arriver. » Ça prouve combien Dieu il a besoin de venir prendre ton cœur. De le guérir. Donne-lui carte blanche. Donne-lui carte blanche. N'aie pas peur. Et je vais finir là-dessus, sur une image. C'est ce qui reste le plus dans notre mémoire. Quand Jésus utilisait des paraboles, il disait avec ses disciples, je parlais en paraboles de sorte qu'ils ne comprennent pas. Mais en soi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je retiens plus facilement quand il y a une image. On va parler de voiture. Désolé, mesdames. Imaginez que vous ayez acheté une magnifique voiture. Une Porsche, une Ferrari. Ne dites pas, j'ai pas besoin de ça, ma petite voiture, ça me suffit. On va y revenir là-dessus, ça va peut-être faire un déclic après. Vous avez cette belle voiture, vous êtes là en train de la bichonner, jour, tous les jours, propre, nickel, vous vous garez pas n'importe où, n'importe comment. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas envie qu'il arrive quoi que ce soit à cette voiture. Dieu, parce que cette voiture, elle a un prix pour vous. Ça vous a coûté très cher. Moi, ma voiture, si je la raye, c'est pas grave. Je sais combien je l'ai payé, je sais combien il lui reste peut-être de temps à vivre. C'est pas grave. Mais Dieu, il a fait une chose extraordinaire. Et je veux pas que ce soit des paroles en l'air comme ça, genre cliché ou quoi que ce soit. Mais je désire que ça puisse vraiment trouver le chemin de votre cœur. Dieu, quand il a payé le prix de votre rachat, il a donné ce qu'il y avait de plus cher. Jésus. Donc ça montre à quel point vous avez également du prix à ses yeux. Vous valez la valeur de Jésus. Nous valons la valeur de Jésus. C'est peut-être un tournant pour ta vie. Je ne veux pas t'oppresser, je ne veux pas te stresser, quoi que ce soit, ou te forcer. Je désire qu'une seule chose, c'est que tu entendes le cri de Dieu pour toi. Et je vous disais que j'allais revenir sur le fait de crier. Comment Dieu fait les choses. Lorsque je priais mardi, et même pendant la louange, des fois ça me vient comme ça, pousser des cris comme ça pour Dieu. Et hier, je lisais, même avant-hier, je lisais un petit passage d'une prophétie qu'il y avait pour cette église, pour cette communauté, où il est dit qu'il y aura des rugissements de lions dans la louange. Et là, quelques jours avant, j'avais une amie, ça fait plusieurs années, elle m'avait dessiné une tête d'un lion. Elle me dit, ça te représente toi. Je dis, ok, bon, je garde. Et vous savez ce qui est fou? C'est qu'au mois de janvier, ça faisait 10 ans, pile, que j'avais fait Jeunesse en Mission. Et là, j'ai réouvert mon livre, on tenait tous un journal, j'avais tous mes dessins à l'intérieur. Je les sortais, je les mettais. Et cette image de lion aussi, je l'ai collée dans ma chambre. Et ces derniers jours, j'ai pris en photo, je dis là, je mets ça sur mon profil, pas Facebook, parce que je ne l'ai plus, merci Seigneur. J'ai mis sur WhatsApp, je dis parce que ça me parle. Je ne mets pas pour que ça fasse beau, que les gens disent « Oh, cool ça !» Non, c'est parce que ça me parle. Et là, je lisais ça, je dis « Waouh, Seigneur, c'est quand même fou, quoi !» Tu as préparé des choses d'avance. Tu parles d'une manière et hop, on reçoit là. Ça peut paraître farfelu, je vais venir aussi sur le fait de crier, ça peut être malaisant que quelqu'un puisse crier dans ce lieu pendant la louange ou autre, dire « Oh, calme, relax, respecte un peu là. » Non, vivez les choses de Dieu. Dieu te donne envie de danser, danse. Dieu te donne envie de crier, tu cries. Imaginez un instant, j'ai lu même récemment, je suis tombé dessus, le cri de Dieu, le tonnerre. La terre effrayée au son de la voix de Dieu. Si moi je crie pas, que je me tais et que Dieu se mette à crier, oh, il va s'en passer des choses. Alors, s'il te plaît, ne limite pas ce que Dieu veut pour ta vie. Il y a des mensonges sur lesquels on s'est construit, qu'on a gardé au fond de nous et qui nous empêchent de vivre ce que Dieu veut, ce que Dieu a. Dieu, il est venu rétablir la communion de départ qu'il avait mis pour Adam et Ève. Il veut ça pour toi. Il le veut. Il le veut. Je vous invite juste, si vous voulez bien, à vous lever. On va prendre un petit temps de prière et je voudrais que tu puisses chanter le chant que tu avais prévu pour la fin avec Manon.